Le CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone sur Radio Immo et Radio Territoria.
Bienvenue sur Radio Immo et sur Radio Territoria. Aujourd'hui, nous vous proposons une émission exceptionnelle consacrée à l'un des grands rendez-vous de la rentrée immobilière, à savoir le CIPCA, le Salon de l'immobilier bas carbone, une cinquième édition qui se déroulera cette année du 1er au 3 septembre prochain au Grand Palais à Paris, sous le haut patronage de la présidence de la République, avec plus de 12 700 visiteurs attendus, 200 exposants, 350 intervenants, 130 conférences et des grands débats. Mais derrière ces chiffres, une ambition: passer du diagnostic à l'action. Autrement dit, comment accélérer réellement la décarbonation de l'immobilier? C'est toute la question de cette émission, à laquelle nous avons le plaisir d'avoir sur le plateau Ferrielle Derich, la directrice du CIPCA. Bonjour Ferrielle.
Bonjour Eric.
Merci d'être avec nous. Sophie Moreau également. Bonjour Sophie. Vous êtes directrice du domaine d'action stratégique bâtiment et quartier pour bien vivre ensemble au CSTB, le centre scientifique et technique du bâtiment. J'ai tout bon jusque-là ?
C'est tout bon.
Parfait, merci. Et Stéphane Roy est avec nous. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la construction chez CDC Habitat. Merci à tous les trois d'être présents avec nous pour cette émission. On va s'intéresser donc à ce premier grand rendez-vous de la rentrée, du 1er au 3 septembre au Grand Palais, le CIPCA.
Le CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone sur Radio Immo et Radio Territoria.
Le CIPCA qui arrive déjà à sa cinquième édition. Alors en lisant le communiqué de presse du CIPCA 2026, Ferrielle, une phrase m'a frappé. Vous écrivez: le CIPCA n'est plus seulement un salon, il devient le lieu où les décideurs arrêtent les choix qui structurent la décarbonation du secteur. Alors c'est une affirmation très forte. Est-ce qu'on peut dire que le CIPCA est devenu aujourd'hui un lieu d'influence autant qu'un salon professionnel?
Je dirais oui, et c'est même assumé. C'est vrai que c'est un salon qui, au départ, a su rassembler tous les décideurs, voilà, de toute la chaîne de valeur de l'immobilier, de la construction et de la ville, et qu'ensemble, finalement, ils ont souhaité, ils souhaitent chaque année aller encore plus loin. Oui, je pense que c'est un choix assumé. Après, ça reste quand même un salon, ça reste quand même un salon professionnel où on peut découvrir de nouvelles solutions, de nouveaux industriels aussi qui sont très engagés chaque année. Mais voilà, c'est un salon qui est en 5 ans passé à l'acte, je dirais, et on se contente plus de constater. Sur ce salon, on décide.
Ça, c'est bien, ouais. En 5 ans, qu'est-ce qui a le plus changé justement? C'est ça, c'est l'aspect décisionnaire?
C'est l'aspect décisionnaire, et puis c'est clairement et statistiquement une véritable marche en avant de tous les acteurs. Tout simplement, il n'y a qu'à constater le nombre de mètres carrés, de millions de mètres carrés aujourd'hui, et de bâtiments labellisés bas carbone. Je pense que les choses avancent vraiment concrètement.
Vous dites que nous sommes passés du diagnostic à l'accélération. Ça signifie quoi concrètement?
Ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on n'est plus au stade de constater, de se dire comment on fait aujourd'hui, comment on décarbone un bâtiment, comment on décarbone un actif. Je pense qu'aujourd'hui, on sait faire. Maintenant, il s'agit d'aller plus loin. Ensemble, entre acteurs privés, acteurs publics, c'est toute cette chaîne de valeur qui est représentée sur le CIPCA, voilà, entre diagnostic et action concrète.
Le CIPCA, on peut le dire, donc vous l'avez dit, c'est devenu un salon incontournable très rapidement. On le répète chaque année, mais c'est vrai que là maintenant, on a l'impression que ça existe depuis toujours en fait, le CIPCA. C'est devenu un sujet, et on le voit cette année avec les canicules que l'on vient de vivre, c'est un sujet auquel il fallait vraiment, c'était urgent de s'attaquer à ce sujet-là.
Il y avait une véritable urgence. Déjà, l'immobilier devait se repenser complètement. En plus, voilà, il ne faut pas quand même pas oublier les statistiques aussi. Nous, acteurs de l'immobilier, de la construction, nous sommes responsables en grande partie des émissions de gaz à effet de serre. Donc, il fallait vraiment revoir nos copies, être en phase aussi avec les réglementations qui nous sont imposées et qui ont du bon. Aussi en ce sens, il est arrivé au bon moment. Je pense qu'on a On a décidé, oui, en fin 2021, de lancer ce salon en se disant, voilà, il y a une vraie métamorphose là qui est en train de s'opérer. Il faut repenser complètement ce secteur. Alors donnons la parole aux pionniers qui font déjà de l'immobilier bas carbone et certains en faisaient déjà depuis 2012-2013. L'association BBCA, Stanislas, ça n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais regroupait déjà plus de 150 membres adhérents.
Et co-organisateur du salon.
Qui est co-organisateur BBCA. Du salon, exactement.
On salue Stanislas Potier, d'ailleurs, son président.
Il y avait des pionniers et l'idée, c'était aussi de les mettre en valeur en 2022, de dire, voilà, il y a ceux qui savent faire, qui font, et ceux qui ont besoin d'apprendre et de suivre le mouvement. Donc, voilà ce qui a changé, ce qui a évolué. C'est ça aussi, c'est qu'ils sont de plus en plus nombreux, et tant mieux.
Tant mieux.
Mais il y avait une vraie nécessité d'organiser cette plateforme de rencontres et de décideurs. Ouais.
Alors, le bas carbone, est-ce que c'est désormais un sujet économique avant d'être un sujet environnemental ?
C'est, je dirais, les deux. Ouais. C'est-à-dire, le sujet économique, les deux sont indissociables, déjà. Ça, c'est clair. Mais il est vrai que l'argument économique a fait, pour moi, basculer le marché. Un actif bas carbone, en fait, ne se commercialise pas, ne se commercialise plus. Enfin, qui n'est pas bas carbone, pardon. Un actif bas carbone se loue mieux.
Oui.
Et conserve sa valeur. Clairement. C'est devenu un sujet de pilotage financier, mais mesurer son carbone, c'est aussi attirer et conserver les investisseurs, mais derrière tout ça, il y a un vrai sujet environnemental, de toute façon. Ça part de là, complètement.
Alors, cette année, au CIPCA, vous faites entrer la santé, la résilience climatique, les territoires, la logistique, le hors-site, l'économie circulaire. Pourquoi avoir autant élargi le champ du salon ? Là aussi, c'était devenu quelque chose de nécessaire ?
C'est pas devenu quelque chose de nécessaire, c'était quelque chose d'évident. En fait, on est parti d'un bâtiment, en fait, de l'actif immobilier à proprement parler. Bien sûr, ça reste le cœur de notre sujet, de nos préoccupations, et on en parlera d'ailleurs avec nos invités, particulièrement avec le Centre scientifique et technique du bâtiment. Mais forcément, quand on parle bâtiment et quand on parle de peu importe l'actif, hein, que ce soit du logement, que ce soit du tertiaire, du commerce ou de la logistique, ce bâtiment, il va s'inscrire dans un quartier, il va s'inscrire dans une ville. Et autour de ça, bah, y a plein de sujets. Quand on va travailler dans un bureau, enfin quand on se rend au bureau, quand on rentre dans son logement, dans les modes de consommation, en fait... Tout le cycle de vie compte et tout l'usage compte. Donc, de manière naturelle, oui, on a parlé aussi de logistique. On parle de logistique et notamment de logistique urbaine qui vont avec les modes de consommation, qui vont aussi avec des acteurs de la logistique urbaine qui vont se positionner, enfin occuper les cœurs de ville ou voilà. Enfin, en tout cas, ce sont des investisseurs et ils sont là, ils sont bien présents et au service de chacun et eux aussi mènent des actions de décarbonation. En tout cas, il y a beaucoup d'efforts faits en ce sens. Le sujet de la santé, bien entendu, il est primordial parce que quand on va parler d'immobilier, bah on fait un immobilier pour qui finalement ? Pour celui qui va habiter nos lieux, qui va y vivre. Et d'autant plus aujourd'hui, il fait extrêmement chaud. Je veux dire, on doit adapter nos bâtiments, on doit s'adapter climatiquement. C'est une question de survie. De survie pour ceux qui vont vont vivre dans nos lieux, donc de toute évidence, donc oui, logistique, oui, pour on disait le sujet de la santé, donc je suis très fière d'avoir mis en avant ce sujet qui nous rassemble tous, qui a un axe commun qui a un véritable impact, en fait c'est l'impact de l'immobilier. Le hors-site, vous en parliez Eric, le hors-site bien entendu parce que tout compte, toute échelle et dans les modes constructifs aussi, dans la manière aujourd'hui de produire peut-être même des logements un petit peu plus vite, plus rapidement et notamment des logements étudiants où il y a des choses incroyables qui se font hors-site et ce sont des modes constructifs qui pour moi sont exemplaires et à l'échelle environnementale également, économique, voilà, donc par la force des choses, on élargit les sujets, mais tout va ensemble. Le sujet de l'économie circulaire, également du réemploi. Forcément, chaque geste compte et chaque étape compte. Donc voilà pourquoi le CIPCA, chaque année, s'ouvre à de nouveaux sujets et de nouvelles présences également d'acteurs.
Et vraiment représentatif de ce que sera la ville de demain. Si vous deviez résumer cette édition Ferial en un mot, lequel vous choisiriez ? C'est pas facile comme question.
En un mot, si je dois résumer cette édition, j'hésite entre action et j'hésite entre collectif.
Je les deux vont de pair finalement, peut-être aussi.
L'action, ouais, c'est une véritable action collective. Oui, après... accélération, collectif... Ouais. J'hésite, peut-être habitabilité, voilà, peut-être, c'est dans l'air, voilà, de ces derniers mois, de ces dernières semaines, peut-être ça, l'habitabilité, ouais.
Ouais. Cette action, cette habitabilité, on va la retrouver d'ailleurs dans les grands débats, dans les conférences que vous proposez tout au long de ces trois jours de CIPCA, du 1er au 3 septembre. Je rappelle que c'est au Grand Palais, le CIPCA qui n'est plus, on peut le dire, le rendez-vous des spécialistes du carbone, c'est désormais celui de tous les décideurs de la ville. Alors, produire du logement bas carbone, est-ce que les belles idées résistent au terrain ? On voit ça tout de suite avec Stéphane Roy.
Le CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone sur Radio Immo et Radio Territoria.
Je rappelle, Stéphane Roy, que vous êtes directeur de la construction donc chez CDC Habitat. Construire bas carbone, tout le monde est d'accord sur le principe, mais lorsqu'il faut produire des milliers de logements, les réalités économiques reviennent vite. Alors, CDC Habitat est précisément confronté, je crois, à cette équation tous les jours. Dans le communiqué de presse du CIPCA, dans le dossier de presse, on parle d'accélération. Ferial vient de nous en parler à l'instant. Pour un grand maître d'ouvrage comme CDC Habitat, où faut-il accélérer en priorité ?
Alors, il faut accélérer sur trois sujets à la fois. La prescription, la sécurisation technique et l'industrialisation. La prescription, pourquoi ? Il faut prescrire plus tôt, intégrer des objectifs carbone dès le début du programme immobilier, dans le choix des systèmes constructifs, comme le disait Ferial, et dans des dossiers de consultation. La sécurisation technique, c'est sécuriser les solutions. C'est-à-dire qu'on ne va pas retenir uniquement une innovation parce qu'elle est vertueuse, mais parce que c'est assuré, exploitable, maintenable et compatible avec le logement abordable. Et l'industrialisation, CDC Habitat, on a lancé l'AMI bas carbone au CIPCA en 2025. Et ça aide à cela, effectivement. Ça transforme un repérage ponctuel des matériaux en catalogue de solutions mobilisables pour les équipes de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre. Donc c'est totalement opérationnel. Le bas carbone, il ne peut pas rester une addition d'expérimentation. Il doit devenir une méthode de production courante, maîtrisée et reproductible surtout. Donc il faut accélérer, oui. Mais sans transférer le risque non plus ou le surcoût final vers les locataires.
Alors justement, le surcoût, c'est important parce que construire bas carbone, est-ce que ça coûte plus cher aujourd'hui qu'il y a 5 ans, par exemple, au démarrage du CIPCA ?
Alors, ça va dépendre du moment où on intègre le bas carbone. C'est-à-dire que si on l'ajoute tard, comme une contrainte, finalement, ça va coûter plus cher. Mais si on l'intègre tôt, donc dès la conception, on peut arbitrer différemment et maîtriser beaucoup mieux les coûts. Le coût, il ne va pas se limiter au prix du matériau. Il faut regarder la conception, le chantier, l'entretien, la durabilité, l'exploitation. Et on a certains procédés qui vont rester plus chers ou moins matures. Et d'autres procédés qui vont être plus compétitifs lorsqu'ils sont anticipés et utilisés à plus grande échelle, bien sûr. Le bas carbone, il doit en fait revenir d'une manière générale plus rigoureux pour acheter en fait finalement. D'accord. Faut retrouver une rigueur dans l'achat, pardon.
Voilà, retrouver une rigueur dans l'achat et c'est important. Vous avez raison. Alors vous allez participer, Stéphane, au CIPCA. À l'un des débats, on en parlait avec Ferrier il y a quelques instants, au débat consacré au logement bas carbone abordable. Vous l'avez un petit peu évoqué là, il y a quelques instants. Peut-on concilier sobriété environnementale et maîtrise des coûts pour les locataires, justement ?
Alors oui, effectivement, on peut, mais il faut garder les deux dimensions ensemble. Il faut intégrer du bas carbone et pouvoir habiter. C'est important de garder ces deux dimensions. Pour CDC Habitat, un logement bas carbone, il va avoir deux sens, que s'il reste abordable, confortable, avec des charges qui sont maîtrisées. La sobriété environnementale, Elle doit contribuer à réduire les consommations. Le choix des matériaux, lui, il doit être compatible avec les contraintes du logement social et intermédiaire, robuste, disponible, réparable. Et notre rôle, en fait, en tant que maître d'ouvrage, ça va être d'arbitrer entre l'impact carbone, le coût d'investissement, le coût d'exploitation et bien sûr la qualité d'usage. Le but, en fait, c'est pas de faire un bâtiment qui soit le plus démonstratif possible, mais c'est un bâtiment bas carbone qui reste habitable.
D'accord. C'est pas simple, hein, comme sujet. C'est effectivement des sujets. Comment vous gérez tout ça chez CDC Habitat? C'est, par exemple, aujourd'hui, vous avez, je sais pas si vous avez les chiffres en tête, mais en tout cas, combien de chantiers en cours, est-ce que vous le savez au niveau des, est-ce que c'est beaucoup de
bah, avec l'AMI, on est dans une démarche où effectivement, on commence à intégrer le bas carbone et via les résultats de l'AMI.
D'accord.
On s'est fait accompagner pour justement intégrer ces éléments-là.
Voilà, c'est important d'avoir cette idée-là. Quel levier vous semble aujourd'hui, Stéphane, le plus efficace? L'industrialisation, la préfabrication, le hors-site qu'on évoquait aussi, les nouveaux matériaux, le réemploi? Tout cela, ce sont les usages d'aujourd'hui, en fait.
Alors, exactement. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, sur l'expérimentation, il n'y a pas de levier unique. Mmh. Ce qui fonctionne, ça va être une combinaison, en fait, moins de matière, des matériaux moins carbonés, une conception qui soit plus sobre, du réemploi quand c'est pertinent, et une exécution chantier plus maîtrisée. Ça peut être via du hors-site, par exemple. Pour revenir sur le hors-site, par exemple, il va être intéressant pour la qualité et les délais. Par contre, il faut faire attention de ne pas rigidifier la maquette qu'on va sortir. Ça peut être une contrainte aussi. Donc,
qu'est-ce que vous entendez par rigidifier la maquette?
C'est-à-dire qu'on va, sur le hors-site, par moment, être sur des modes constructifs qui vont imposer aux architectes de respecter les outils de production, mmh, et qui ne vont pas forcément leur permettre d'avoir plus d'imagination.
D'accord.
Dire comme ça.
Ok. Il faut leur laisser libre cours, quoi, en fait, à leur talent d'architecte,
exactement,
à leur créativité.
Exactement. Sur les nouveaux matériaux, ils vont être utiles s'ils sont techniquement évalués et compatibles avec les contraintes du logement, bien sûr. Et pour les matériaux biosourcés et géosourcés, c'est efficace lorsque la filière, elle va être disponible et que le domaine d'emploi, il est sûr et clair. C'est, une fois de plus, c'était le but de notre AMI. Voilà.
D'accord. Alors, ces dernières semaines nous ont appris une chose, c'est que le confort d'été devient vraiment une priorité aujourd'hui. Est-ce qu'il est désormais aussi important que la performance énergétique chez CDC Habitat, par exemple?
Clairement, oui, un grand oui. Pendant longtemps, en fait, on a surtout raisonné en hiver. Oui. Donc, on a travaillé sur le chauffage, l'isolation, les consommations. Avec le changement climatique, et c'est ce qu'on vit aujourd'hui, le confort d'été devient un critère central de qualité du logement. Le logement performant, en fait, il ne doit pas devenir inconfortable sur les épisodes de canicule. Et c'est ce qui peut se produire aujourd'hui. Mmh. Le confort d'été, il va nous obliger à travailler sur l'orientation, la ventilation, les protections solaires, l'inertie, la végétalisation, les îlots de fraîcheur et l'usage. Le logement de demain, en fait, il va être jugé autant sur sa capacité à consommer peu que sur sa capacité à être résilient pendant les périodes de canicule.
Alors c'est vrai qu'on s'aperçoit d'une chose avec ces canicules, hein, c'est que en fait tout cela, tous ces sujets, Feriel, vous serez d'accord avec moi, on en parle depuis 5 ans au moins déjà au CIPCA, et là on a l'impression que les choses s'accélèrent. Donc comment on fait pour concilier à la fois du temps long avec une urgence où il faut aller vite? C'est pas simple, hein, Stéphane, j'imagine.
Alors effectivement, donc la clé, on y croit tous, hein, c'est le bas carbone, effectivement.
Ouais.
Après, il faudra anticiper les usages, télétravail, vieillissement de la population, confort acoustique, qualité de l'air, espace commun utile également. C'est un logement qui devra aussi être conçu avec une logique de coût global et pas seulement de coût de construction. Donc c'est ce qu'on prend en compte aussi actuellement, bien sûr. Logement, ce que je disais juste avant, plus résilient en eau, en charge, bien évidemment. Mais c'est surtout un logement qui devra rester abordable. Et
ouais,
ça, c'est important. C'est une condition de cohérence avec notre mission d'intérêt général.
Alors ça, c'est le logement, en gros, que vous allez construire chez CDC Habitat en 2030, on va dire. C'est demain, quoi, en fait, hein, 2030.
On travaille déjà dessus, bien sûr.
Oui, vous êtes déjà dessus, bien sûr.
Déjà dessus, et l'AMI, par ailleurs, si je puis me permettre, qui a été lancée par CDC Habitat l'an dernier, c'est vraiment une première.
Mm-hmm.
C'est la première fois, hein, qu'un bailleur social lance un AMI directement auprès des industriels et des solutions sur un salon. Ça a été un événement marquant, je crois, qui a rencontré un tel succès que vous allez en reparler sur l'édition 2026. avec les résultats. C'était assez magique dans le sens où on s'adressait directement aux solutions pour pouvoir les déployer à grande échelle sur un parc immobilier, des parcs de logements. Donc c'était absolument génial pour les solutions qui avaient déjà été présélectionnées au CIPCA et qui avaient fait leurs preuves, c'est-à-dire qu'elles ont passé un comité de sélection. Elles avaient clairement des bienfaits, en tout cas bas carbone. Et c'est d'autant plus important pour nous, organisateurs de salons, de voir, on sait que le logement, c'est vraiment un grand sujet, un sujet prioritaire, et de voir qu'un bailleur social est aussi impliqué sur ces sujets de solutions, de retour aussi en quelque sorte à la sobriété, voilà, la maîtrise des coûts pour ceux qui vont vivre dans ces logements. C'est quelque chose d'assez unique. Donc moi, c'est vrai que je suis ravie des démarches menées par CDC Habitat et ses filiales sur notre salon.
CDC Habitat qui sera bien sûr présent, on le disait, au CIPCA encore cette année. Oui. Et vous participerez à l'une des tables rondes, à l'une des conférences, Stéphane. Vous évoquiez tout à l'heure, Ferrier, la réglementation, en disant que, bon, elle apportait aussi un côté positif. On entend aussi des voix qui disent que la réglementation est trop lourde. Alors, elle aide ou elle n'aide pas, la réglementation ? Stéphane, vous en pensez quoi ?
La réglementation, elle va aider parce qu'elle fixe une trajectoire. Et du coup, elle oblige. Elle oblige toute une filière à se transformer. Mais elle suffit pas, en fait, finalement. Il faut laisser le temps aux filières, aux entreprises et surtout aux maîtres d'ouvrage de sécuriser les solutions. La réglementation, finalement, elle donne un cap. C'est le terrain qui impose la méthode.
Et le marché, il suit par rapport à tout ça ?
Alors, le marché, il va suivre de manière hétérogène. Certaines filières, elles sont déjà très matures. Il y a d'autres filières qui sont encore émergentes. Notre responsabilité, c'est de donner de la visibilité au marché, notamment par nos volumes, nos prescriptions et nos démarches de référencement, bien évidemment.
Et les entreprises, elles sont prêtes ?
Alors, les grandes entreprises, elles progressent vite, mais on a une maturité qui reste variable selon les lots, les territoires et les procédés. Ce n'est pas seulement une question de volonté. En fait, il faut des références, des compétences, de l'assurance, de la maintenance et une capacité à tenir des volumes importants, c'est-à-dire produire régulièrement sans dégradation de qualité, de délai ou de coût.
Alors on voit avec tout ce que vous nous avez dit, Stéphane, que le défi n'est plus uniquement technique, il est également économique et social. Donc décarboner pour mieux vivre, on va en parler tout de suite.
Le CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone sur Radio Immo et Radio Territoria.
Oui, parce que on le disait avec Feriel tout à l'heure au début, le CIPCA va parler désormais beaucoup de santé, de qualité de vie, de confort, de bien-être. On sort finalement d'une logique uniquement carbone. Sophie Moreau, je rappelle alors que vous êtes, j'y vais, alors je relis parce que votre titre il est long sur une carte de visite, directrice du domaine d'action stratégique bâtiment et quartier pour bien vivre ensemble au CSTB, le centre scientifique et technique du bâtiment. Est-ce que c'est cette façon de parler maintenant du bas carbone en évoquant la santé, la qualité de vie, est-ce que c'est la prochaine révolution du bâtiment ?
Une révolution, je ne pense pas, non. Je pense que surtout qu'on revient à l'essentiel. Pour qui on bâtit ? Feriel nous l'a dit tout à l'heure, on bâtit pour les humains qui vont vivre dedans. Leur aspiration, c'est d'être bien.
Ouais.
Donc, c'est pas du tout une révolution. La fonction première d'un bâtiment, c'est bien de protéger de toutes sortes de choses, du climat, bien sûr, et là, on en parle directement en ce moment, des prédateurs, des ennemis, enfin, de protéger notre santé, d'une manière générale. Ça, on l'a un petit peu oublié ces dernières décennies parce que dans nos sociétés industrialisées, on considérait que tout ça, c'était acquis, on était protégé. On a déjà eu une alerte il y a quelques années avec une fameuse pandémie qui nous a montré que le bâtiment ne nous protégeait pas tant que ça. Et puis là, en ce moment, on vit les fortes chaleurs de manière assez cruelle et on voit que le bâtiment, là encore, ne nous protège pas tant que cela. Donc, ça n'est pas une révolution, c'est le retour à l'essentiel de ce que doit faire le bâtiment. Le bien-être et au-delà la santé.
Voilà, je ne sais plus qui évoquait le bon sens paysan, justement, de toutes ces choses du passé que l'on remet au goût du jour aujourd'hui. Mais pourquoi le CSTB s'est-il autant investi sur cette notion de bien vivre ensemble, au-delà du fait qu'effectivement la santé aujourd'hui c'est essentiel ?
Alors, au-delà du petit jingle marketing, bien vivre ensemble, c'est surtout que, je le disais à l'instant, on construit pour les humains et on construit pour qu'ils y soient bien. Donc, c'est l'objectif global et ultime de l'ensemble de nos recherches. Aussi techniques soient-elles, elles mènent toutes à un seul et unique objectif, construire des bâtiments dans lesquels on soit bien. Donc, ces bâtiments-là, ils doivent être accessibles, ils doivent être confortables, ils doivent être inclusifs, ils doivent être abordables et favorables à la santé.
Dans le communiqué de presse, dans le dossier de presse du CIPCA, la santé est présentée comme la grande nouveauté de cette édition. Feriel nous en parlait tout à l'heure. Alors pourquoi aujourd'hui finalement ?
Pourquoi aujourd'hui ? Parce que très probablement le concept One Health, qui n'est pas du tout récent, a fait son chemin dans tous les esprits. On en entend parler à peu près partout, dans la presse, vous voyez ça, le One Health. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on vit dans un écosystème qui est très complexe, un écosystème biologique, physique, chimique. Et nous, nous sommes étroitement liés à l'équilibre de cet écosystème. À partir du moment où celui-ci est déséquilibré, ça impacte notre propre équilibre et donc ça impacte notre santé. Dans les années 70, après le premier choc pétrolier, les constructeurs ont été très largement encouragés à se focaliser sur l'énergie. On l'a dit tout à l'heure,
ouais.
on parlait de la dépense énergétique et puis on parlait du risque de froid en hiver, en tout cas pour nos climats. Plus récemment, à l'éclairage du dérèglement climatique, on a embarqué des questions carbone dans nos préoccupations. Mais là, en ce moment, on voit bien que le sujet n'est plus que celui-là. On ne peut plus parler uniquement d'énergie, on ne peut plus parler uniquement de contenu carbone, même si on le sait, c'est absolument nécessaire pour l'avenir. Et on ne peut plus non plus parler uniquement de confort. Il faut désormais qu'on parle de santé. Les chiffres qui ont été publiés ces dernières semaines par Santé publique France éclairent assez dramatiquement le fait que nos bâtiments ne sont pas adaptés au climat que l'on vit aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas été adaptés à ces climats qu'on ne connaît pas encore.
On vient de prendre une vraie claque hein, avec toutes ces dernières semaines, avec les canicules que l'on a vécues. On le disait un peu hors antenne avant d'enregistrer cette émission. Le confort d'été, on en a parlé également avec Stéphane. Est-ce qu'il devient aujourd'hui un nouvel indicateur de qualité des bâtiments pour vous, Sophie ?
Absolument. Oui. C'est tout à fait essentiel. Jusque-là, on peut peut-être considérer que le confort d'été, c'était un indicateur opportuniste. C'était une valeur transactionnelle. Mon logement est confortable. Aujourd'hui, c'est un indicateur sous contrainte. C'est absolument obligatoire. Et d'ailleurs, dans le vocable, on est passé de la notion de confort vraiment à la notion sanitaire. Et Feriel l'a dit tout à l'heure, et Stéphane l'a dit aussi, une des préoccupations majeures désormais des maîtres d'ouvrage, c'est de s'assurer que les gens soient en bonne santé dans leur logement. Et la question de l'été devient absolument cruciale. Donc, c'est un critère de choix aussi. Ça reste un critère économique. C'est-à-dire, on peut considérer que ça va être une valeur marchande, une valeur valorisante pour un logement que d'être en capacité d'offrir un bon confort d'été, une bonne protection sanitaire. Maintenant, à nous tous, les acteurs de la construction, de l'immobilier, la promotion, les chercheurs, de définir les bons indicateurs et de les mettre à disposition pour que chacun puisse construire mieux, concevoir mieux, choisir mieux.
Donc si je vous suis bien... On ne peut pas aujourd'hui parler de bâtiments durables sans évoquer la santé, sans parler de la santé.
C'est incontournable.
C'est incontournable.
C'est incontournable. S'il est durable tout seul, on loupe notre cible. Un bâtiment durable n'a pas de sens s'il n'est pas durable pour ses habitants. Donc, bien sûr, la durabilité telle qu'on l'entend et on la manipule au quotidien, elle recouvre la question de la finitude des ressources, donc de la limitation de ses émissions, de la proposition de confort, de l'attractivité, de la désirabilité. Tout ça, c'est durable, mais ça ne peut pas l'être si ça ne préserve pas la santé. Depuis toujours, le bâtiment, et je le disais en introduction, il a vocation à protéger ses occupants, de les mettre en sécurité. On pense tout de suite aux risques majeurs. Il doit les protéger de l'effondrement des bâtiments. Donc on travaille sur la structure. Il doit les protéger des risques comme les incendies. Donc on fait de l'ingénierie incendie. Mais il doit aussi les protéger des risques qui sont plus chroniques. Donc les risques environnementaux, le bruit, qui est un facteur majeur de santé publique, la pollution de l'air, et tout ce qui va impacter sa santé de manière plus sournoise, plus chronique.
Et l'humidité aussi, on l'évoque souvent dans une émission que l'on a sur l'antenne.
Et l'humidité aussi. Voilà. Donc la durabilité, ça se regarde vraiment sous de multiples facettes.
Alors au CSTB, vous qui êtes toujours un petit peu en avance et qui travaillez avec tous les professionnels du bâtiment, de la construction, de l'immobilier, il y a cette prise de conscience, est-ce qu'elle passe auprès des professionnels justement, ou est-ce qu'elle passe maintenant parce qu'on a eu ces exemples de canicule, ou c'est un sujet quand même qui est là depuis quelques temps ?
Oui, non, je pense que là, on va dire, ça émerge de manière aiguë dans le grand public, mais la prise de conscience, elle est quand même là. Néanmoins, il y a encore un travail à fournir pour que, je pourrais reprendre le dernier mot de Feriel, c'est l'action collective. C'est ça qui nous permettra d'avancer. À chacun d'entre nous, on ne peut pas y arriver. C'est vraiment tous ensemble qu'on pourra le faire.
La présence du CSTB au CIPCA, c'est une évidence, bien sûr, pour vous, Feriel.
C'est une évidence et puis ça vient appuyer mon choix. Je suis tellement ravie que le côté scientifique vienne appuyer un choix que j'ai fait l'an dernier, en fait. L'an dernier, on a le troisième jour, j'ai rassemblé des acteurs très engagés sur la santé dans l'immobilier, à force d'échanger, en fait, avec les uns les autres. Donc, on a à la fois des acteurs qui travaillent le sujet de la santé dans le bureau, dans le tertiaire. Hein. Je pense à des wellness training et le fondateur Michel Rota, qui a été vraiment pionnier sur ces sujets en disant, mais attendez, il faut vraiment prendre conscience du fait de la santé psychique, physique, des bâtiments, des bureaux. Et depuis Covid, notamment, les choses ont tellement changé. Lui, des promoteurs immobiliers comme Care Promotion, qui était aussi à nos côtés et qui font de l'immobilier, on parlait d'insonorisation, enfin en tout cas du bruit, de la qualité de l'air. Voilà, ce sont des promoteurs qui font des choses incroyables. Donc oui, moi je savais que ce sujet, il était important en 2025, fin 2025, je l'ai annoncé au CIPCA. Et puis entre-temps, j'ai pu constater tellement d'actions menées, dont celles du CSTB, en fait, qui sont menées depuis des années, parce que Sophie, je la trouve humble et modeste, mais en fait, le CSTB et le travail que vous menez sur le sujet de la santé et le bâtiment et le côté scientifique, il est mené depuis des années chez vous. Moi, autant l'an dernier, je me suis dit, qu'est-ce qui nous rassemble tous sur ce salon, à part ce salon à proprement parler, parce qu'on a tous envie d'y être et d'agir collectivement. Ce qui nous rassemble, c'est l'impact qu'on a sur les uns et les autres. Et donc, je me suis dit, mais oui, bien sûr, c'est ça. Parlons de la santé, parlons d'un immobilier intelligent qu'on fait au profit, pour préserver, pour protéger, pour défendre aussi la santé et le bien-être de chacun. Mais, et donc, pour répondre à votre question, Eric, la présence du centre scientifique et technique du bâtiment derrière mon sujet, quand on a pu échanger une première fois avec Sophie en visio, je me suis dit, mais en plus, c'est génial parce que les scientifiques aussi recréent le lien entre nous actuellement, de l'immobilier, à la fois dans les matériaux qu'on va utiliser, à la fois dans l'urgence qu'il y a à adapter nos bâtiments aux risques climatiques. Aujourd'hui, voilà, et tous ces sujets, vous les menez depuis longtemps, finalement.
Oui, on les mène depuis longtemps, alors avec une approche, on va dire, de physicien. Physiciens, chimistes, ouais. Où on étudie notamment on va dire ce qu'on appelle l'exposome, donc tout ce qui expose un individu dans un environnement, donc les facteurs chimiques, biologiques, physiques. Mais depuis quelques temps, on a accéléré notre action en ayant pris conscience de cet impact que nous aurions pour peu que nous jouions collectif. Et donc, il y a deux initiatives qu'on peut souligner. Une, à l'initiative d'Espace Ferroviaire, qui travaille avec un collectif de l'immobilier, donc des aménageurs, des promoteurs, des foncières, pour promouvoir le bien-être et la santé dans les bâtiments. Et c'est une approche assez simple. On ne va pas réinventer l'eau chaude. On veut simplement marquer ce qui serait favorable à la santé et donc aider les concepteurs à mettre l'accent sur des choses ou au contraire se retenir un peu sur des gestes qui seraient défavorables. Il y a cette première initiative à laquelle on est associé. On a beaucoup d'enthousiasme pour ça parce qu'on aime beaucoup cette idée du collectif qui porte ensemble quelque chose qui sera ensuite mis à disposition des autres.
Ouais.
Et il y a une autre initiative qui est avec Santé publique France. Et là, c'est vraiment le lien entre les acteurs de la santé et les acteurs du bâtiment qui affirment ensemble que seuls, ils ne pourront pas faire. Et donc, l'acteur du bâtiment est un acteur de santé, il ne le sait pas, mais il faut le lui dire, il faut lui expliquer comment il peut propager les bonnes idées, les bonnes initiatives. Et on a pour ça un soutien fort avec des acteurs de santé. Et ça, on peut dire que c'est assez nouveau.
Voilà, ce sont des exemples que l'on retrouvera bien évidemment au CIPCA à travers les conférences et les tables rondes que vous organisez. Sophie, alors si on revient sur la ville, les quartiers, est-ce qu'ils doivent désormais être pensés comme des écosystèmes complets plutôt que comme une simple addition de bâtiments?
Ah oui, c'est la réponse est dans votre question.
Oui, c'est ça.
Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Non, non, mais on parlait tout à l'heure du concept One Health et qui met en évidence l'écosystème que nous formons dans notre environnement. Et évidemment, le bâtiment dans la ville, c'est la même chose. Et aujourd'hui, si on reprend l'image de ce qu'on vit en ce moment, qui est un épisode caniculaire assez historique, on sait bien que les bâtiments en ville souffrent de l'îlot de chaleur urbain. Et l'îlot de chaleur urbain, ce sont les bâtiments qui le construisent. Donc, on ne peut pas penser un bâtiment sans son environnement. On ne peut pas promouvoir des solutions d'adaptation sans prendre en compte l'environnement et sans l'adapter d'une manière globale. Donc la réponse est oui, ce qui ne nous simplifie pas le problème.
C'est ça. Le changement climatique oblige à revoir complètement notre manière de construire.
Alors complètement non, parce que si on disait ça, on découragerait à peu près tout le monde. Ouais. Et tout à l'heure, il a été dit, on sait déjà faire. Et c'est vrai, on sait déjà faire. Et vous avez dit aussi, Stéphane, il n'y a pas que des questions techniques. La technique, c'est une chose, on la maîtrise d'une certaine manière, mais maintenant, il y a de l'organisation à mettre en place, il y a de l'optimisation, il y a des choix de solutions, il y a des bouquets de choix de solutions aussi. Il n'y a pas qu'une seule et unique solution miracle. C'est un peu au cas par cas, c'est comme un puzzle, vous allez chercher les bonnes pièces et les mettre aux bons endroits. Donc c'est l'intelligence collective qui fera la solution.
Cette intelligence collective, elle passe notamment par le CSTB et tous les chercheurs, les scientifiques qui travaillent auprès de vous pour justement trouver les bonnes solutions et faire le meilleur bâtiment bas carbone, celui dans lequel on va tout simplement mieux vivre. Alors on va voir comment agir collectivement, ce sera la dernière partie de cette émission.
Le CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone sur Radio Immo et Radio Territoria.
Oui, parce que le slogan du CIPCA cette année, il est très clair, agir collectivement. Mais qui doit agir? Est-ce que ce sont les collectivités, les promoteurs, les investisseurs, les industriels, les habitants? Un petit peu tout le monde finalement, on peut se dire. Feriel, lequel de ces acteurs a selon vous le plus progressé aujourd'hui?
Lequel de ces acteurs a le plus progressé? Je dirais que tous ont avancé. Ouais. Concrètement, celui qui a fait basculer le marché, toutefois, je pense que ce sont les deux. Je dirais que ce sont les investisseurs et les utilisateurs. Voilà, le jour où le carbone est devenu finalement un critère de valeur et de risque, plus personne n'a pu l'ignorer. Et sans vexer personne, je dirais aussi que les promoteurs et les industriels ont quand même apporté leurs preuves techniques. Voilà, 6 millions de mètres carrés biosourcés. Enfin, on a des chiffres aussi. Je dirais aussi que les collectivités ont pris le sujet quartier et territoire.
Parce que ça, pendant longtemps, on a dit les collectivités traînent un peu. Là, ça y est.
Vous savez, en fait, c'est pas ça. C'est que moi, je me souviens, quand on a lancé le CIPCA en 2022, la première édition, j'ai dit, il faut un salon où toute la chaîne de valeur soit représentée, et je le voyais très en amont de la chaîne de valeur avec forcément les aménageurs et les élus. Parce que c'était pour moi décarboner la ville, le territoire, enfin la dimension, elle est là, on le disait tout à l'heure, et Sophie le précisait, on ne peut pas penser un bâtiment comme ça, ou un assemblage de bâtiments de manière isolée. Et en fait, ce sujet, il était hyper technique pour les élus. Et certains me disaient, mais en fait, moi, tu me parles de bas carbone, je renvoie à mon directeur technique. Mmh. Et oui. C'est aussi tout le travail qui a été mené depuis 2022 par le CIPCA, je ne vais pas dire démocratisé, mais c'est un peu ça. Et au travers de sujets comme la santé, ce sont des sujets qui rassemblent tout le monde. Et on va mieux comprendre pourquoi il est important de décarboner, pourquoi il est important d'utiliser les bons matériaux. Il y a un sujet, certes, économique, parce qu'on le dit, on cesse de le dire, hein, redonner de la valeur aussi à l'actif et puis redonner vie aussi parfois à un bâtiment public et à quel coût et à quel prix. Voilà, oui, les villes et les élus, les territoires ont pris, et les aménageurs aussi se sont emparés immédiatement de ce salon et de ce sujet. En fait, j'ai même l'impression qu'à l'échelle de l'aménagement, les aménageurs étaient déjà, peut-être même avant nous, sur ces sujets. Ouais. C'est assez impressionnant le nombre d'établissements publics d'aménagement, d'aménageurs qui ont vu en ce CIPCA le salon de leur expression, de leur réflexion et de leur besoin aussi d'agir collectivement. Je pense que l'aménageur est un ensemblier. Et lui, il a tout, mais vraiment, ça a été assez impressionnant.
Intéressant.
Mais même moi, j'ai été surprise. Je me suis dit, on va parler au territoire à l'échelle d'un actif, hein, d'un élu. Comment repenser votre ville, comment vous aider à trouver des solutions financières, techniques, vous apprendre peut-être ces sujets qui sont tellement importants. Finalement, aujourd'hui, c'est complètement entré dans... Enfin, on a une mobilisation, on a eu 400 élus l'an dernier. Là, cette année, ce sera la rentrée des territoires post-élection municipale. J'espère qu'ils seront encore plus nombreux. Mais ouais, l'aménagement, c'est été assez révélateur, ouais. Ouais.
Alors, agir collectivement, quel est aujourd'hui, Stéphane, le principal frein? Est-ce que c'est la réglementation? On l'évoquait tout à l'heure, on a évoqué également le financement, mais les délais aussi, on parlait du temps long et puis de l'urgence à travailler vite. La culture aussi, les mentalités, tout ce que l'on a dans la tête, c'est quoi le frein ou les freins?
Alors, je pense que le principal frein, en fait, et ça va rejoindre un peu tout ce qu'on se dit, ouais. C'est l'alignement de toute la chaîne, en fait. Et évidemment, comme l'a souligné Feriel, c'est aussi là, je pense, la raison d'être du CIPCA et de pouvoir regrouper tout le monde pour justement essayer d'aligner tout le monde vers ce bas carbone. Et ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, la réglementation, elle fixe le cap, mais un déploiement maîtrisé, il va dépendre du financement, car on a des marges de manœuvre aujourd'hui qui sont plus faibles alors qu'on a des exigences qui augmentent, de la maturité des filières et des délais. Une solution bas carbone qui ne va pas être disponible au bon moment, ça peut fragiliser une opération. Les compétences, bien sûr, de l'exploitation future, hein, in fine. Une solution qui est performante sur le papier, elle peut devenir contre-productive si elle est mal maintenue, si on n'a pas de maintenance dessus. Donc le sujet, en fait, c'est évidemment pas de choisir entre la réglementation, le financement ou la culture, c'est vraiment de synchroniser toute cette chaîne.
Est-ce que aujourd'hui, Sophie, nous sommes dans une logique de transition ou est-ce qu'on est déjà dans une logique d'adaptation?
Eh bien, les deux. Ouais. Vous connaissez l'adage, il faut gérer l'inévitable et éviter l'ingérable. Donc, il faut renoncer à rien. On voit bien qu'on est dans l'urgence de l'adaptation en ce moment. On est dans une crise aiguë. Mmh. Nous espérons tous autour de cette table que ça ne va pas retomber, qu'on va tous garder en tête que s'adapter est absolument nécessaire. Mais il ne faut évidemment pas renoncer à atténuer nos émissions de carbone. Donc, c'est les deux. À la fois, on est dans une logique de transition qui est déjà engagée depuis un moment. Feriel le soulignait, les acteurs ont déjà pris en charge cette question de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la réduction du carbone embarqué dans leur solution. Mais désormais, il faut aussi regarder de manière très attentive la question de l'adaptation, et ça doit se faire ensemble, et ça n'est pas incompatible.
Alors justement, dans cette adaptation, c'est vrai qu'avec les canicules, on voit actuellement le retour en bonne grâce de la climatisation. Mais bon, alors c'est un bien, c'est pas un bien, on en a besoin en même temps.
Alors on en a besoin. En fait, il faut éviter, et ça a déjà été dit aussi, il faut éviter les solutions dogmatiques et uniques. C'est-à-dire, la climatisation pour tout le monde, c'est un dogme. La climatisation pour personne, c'est aussi un dogme. Et donc ça, il faut l'éviter. Il est absolument certain qu'à l'avenir, et même dès aujourd'hui, notre climat est en évolution telle qu'il ne sera pas possible d'avoir des logements ou des équipements qui ne soient pas climatisés partiellement ou ponctuellement en fonction des usages. Il faudra donc choisir avec intelligence quelles sont les solutions que l'on apporte. Avec en priorité les solutions passives, c'est-à-dire celles qui ne coûtent pas au climat, et ensuite en complément, les solutions de climatisation quand c'est nécessaire en fonction de la vulnérabilité du bâtiment dans lequel on est, croisée avec la vulnérabilité des personnes qui y logent.
Alors j'ai encore deux petites questions pour vous trois. Si vous aviez par exemple chacun une mesure à faire adopter demain matin, ce serait laquelle, Ariel?
Moi je rejoindrais ce que vient de dire Sophie, c'est-à-dire des mesures et des solutions qui nuisent pas au climat, et c'est des solutions qu'on va trouver sur le salon, c'est-à-dire et que je pense, et même certains, c'est des C-Habitat utilisent déjà, c'est dans les matériaux biosourcés, c'est dans, vous le disiez en introduction, hein, le retour aux sources paysannes. Aux...
Ouais, le, non, au, mais, au bon sens paysan.
Mais,
enfin,
mais
au,
non,
ouais.
Mais ce sont des matériaux finalement ancestraux. On sait que certains gardent la fraîcheur, de l'humidité. Je pense que voilà, il y a ce sujet de matériaux employés. Il y a aussi toute cette biodiversité, cette végétalisation, qui pour moi aussi sont des solutions viables. En tout cas, il faut les préserver, les développer. On découvrira tout ça sur le CIPCA d'ailleurs, parce qu'on a un énorme pavillon cette année qu'on a testé en avant-première l'an dernier, mais qui était le pavillon de l'adaptation et de la biodiversité. Cette année, c'est le pavillon de la résilience climatique de l'immobilier, risque, adaptation et biodiversité. Et là, et découvrir des solutions absolument incroyables. Donc, pour répondre à votre question, Eric, quelles solutions comme ça, là, tout de suite, dans l'immédiat, je déploierais, c'est ça,
ouais, c'est ça.
À l'échelle de logement?
Allez, oui.
Là, comme ça, immédiatement, déjà, primordial, les volets, je pense. C'est ce que je dirais.
Ouais. On revient au bon sens.
Des maisons dans le sud, en fait. Dans les pays méditerranéens, on a... il y a ça. Après, il y a tellement de choses aussi.
On va demander à Stéphane ce qu'il en pense, justement.
Ça se rejoint, hein, en tant que maître d'ouvrage, en fait, finalement. Moi, ce que je proposerais, c'est une approche entre un coût global, mais aussi un carbone global, hein, si on peut le dire comme ça, dans toutes les opérations, bien sûr, et dès le début des programmations. C'est ce qui est vraiment le plus important. Parce qu'en fait, nous, la difficulté, c'est qu'on n'a pas envie d'arbitrer demain et devoir concilier entre climat, coût et qualité d'usage. Donc, plus on anticipe, ce que je disais tout à l'heure, toutes ces problématiques, et moins on aura de désagréments sur ces sujets-là. Le but, in fine, ça va être d'acheter le mieux disant durable, en fait. Voilà. Et bas carbone, bien sûr.
Sûr. Et pour vous, Sophie, la mesure à faire adopter demain matin?
Je vais faire une pirouette parce que ce ne serait pas une mesure, ce serait une recommandation.
Oui.
Et ça a été dit tout à l'heure, notamment quand vous interrogiez sur qu'est-ce qui peut amener des solutions techniques, concrètes, innovantes. Et il a été dit, il faut que les filières se structurent, il faut que le marché s'installe, etc. Donc ma préconisation, ce serait d'avoir une constance et une cohérence dans les décisions politiques. Parce qu'on le sait, le renouvellement du parc est très lent. Le parc français se renouvelle en bâtiment neuf de l'ordre de 1% par an. Alors si on ajoute quelques dixièmes de pourcentage de rénovation, on voit qu'on est très très loin du compte pour réussir à avoir adapté ou reconstruit l'intégralité de notre parc. Il faut donc massifier la rénovation, parce que c'est là qu'est le gisement. Et pour le faire, il faut inciter les filières à le faire et leur donner de la visibilité. Et donc, si les décisions politiques sont aussi lentes, personne n'a la visibilité suffisante pour installer un marché.
On a l'impression qu'elles accélèrent un peu quand même, là, les décisions politiques.
Oui, il y a des...
Il y a quelques mesures qui sont prises.
Il y a quelques mesures qui sont proposées. Et c'est très bien. Mais pour massifier, il faut... avoir une bonne connaissance du parc. Aujourd'hui, je pense qu'on l'a. Le CSTB, entre autres, avec sa base de données nationale des bâtiments, mais d'autres acteurs aussi. Et il faut cibler, quand on a peu de moyens, entre guillemets, on va à l'essentiel. Donc il faut cibler les meilleurs gisements et aller massifier là où le gisement est le meilleur pour le meilleur coût-efficacité et donc donner de la visibilité aux filières pour le faire.
Alors, dernière question, il nous reste 3 minutes à peu près d'émission. Dans 5 ans, quel sera selon vous le changement qui aura le plus transformé l'immobilier? Stéphane, peut-être. Je vous sens motivé là pour répondre.
Dans 5 ans, le changement plus profond, c'est que le carbone, il ne va plus être traité comme une spécialité environnementale, mais comme une condition normale de la production immobilière, logiquement. Ce qui va transformer notre métier, c'est le passage d'une logique de démonstrateur à une logique de déploiement qui soit totalement maîtrisée, avec des solutions référencées, assurées, économiquement soutenables, bien sûr, et qui sont, comme je le disais juste avant, intégrées dès la conception. C'est ce qui est le plus important. Et on aura une transformation qui va être réussie si on retrouve tout ça dans le logement, moins de charges, plus de confort d'été, un logement plus vivable. Et voilà, moi, en conclusion aussi, je vous invite, on a une table ronde au CIPCA, le 1er septembre à 15h en salle Roosevelt, où on va pouvoir échanger sur l'AMI en compagnie également du CSTB. Donc j'invite tout le monde, tous les gens qui écoutent cette émission, à pouvoir y participer.
Ce sera passionnant, j'en suis certain. Donc 1er septembre à 15h sur le site du CIPCA au Grand Palais. Sophie, pour vous, quel sera le changement qui aura le plus transformé l'immobilier dans 5 ans? On va dire que le nouveau gouvernement qui va arriver en 2027 va mettre le logement dans ses priorités.
Oui, on espère que le logement va être dans les priorités. Et justement, on espère que le logement sera dans les priorités. Pourquoi? Parce qu'il concerne tout le monde. Tout le monde habite quelque part. Et donc, tout à l'heure, j'évoquais la question des politiques et j'aspire à une forme de stabilité dans les décisions. Je pense qu'on y aspire tous. Mais l'action des acteurs économiques et des citoyens est aussi tout à fait centrale. Donc, moi, je considère que dans 5 ans, on aura vraiment transformé les choses quand, d'ici là, on aura tous pris conscience de la nécessité de fournir un effort collectif. On a repris ce mot plusieurs fois au cours de cette table ronde, mais ça me paraît tout à fait central, parce que le changement climatique, ça n'est pas le problème de mon voisin, ça n'est pas mon problème, c'est notre problème à tous. Et donc, c'est tous ensemble qu'on pourra résoudre ça. Donc, je crois beaucoup, beaucoup au collectif.
Voilà, agir collectivement, c'est d'ailleurs le slogan de cette année. Au CIPCA, Feriel, pour vous.
Alors déjà, je voudrais revenir sur votre question commune tout à l'heure, s'il y avait une mesure à adopter. J'avais compris une solution à déployer à l'échelle du bâtiment. C'est pour ça que j'ai parlé de mes petits volets dans l'immédiat. Là,
oui, mais c'était une bonne réponse.
Un petit peu le rafraîchissement, mais j'aurais pu quand même parler plus à l'échelle d'une mesure qui est celle de rendre notamment l'empreinte carbone visible, plus visible, voilà, et comparable pour chaque bâtiment. Parce que je ne cesse de le dire, mais ce qui se mesure se décide aussi, et c'est tout le travail qu'on mène au CIPCA aux côtés de BBC. Après, pour dans 5 ans, quel sera selon vous, c'est à mon tour la question.
Oui, la mesure, le changement qui aura le plus transformé l'immobilier.
Ben moi, j'ai noté, j'ai réfléchi. Voilà, je me dis, dans 5 ans, on parlera plus de bâtiments bas carbone. Je pense que ce sera une norme, et que la vraie question sera devenue sait-on encore y vivre l'été? Peut-on encore y vivre l'été? Voilà. Mais si je dois rester focus sur le bas carbone et l'ADN même de ce salon qu'est le CIPCA, c'est ce que je dirais. Pour moi, ce sera de toute évidence un bâtiment, voilà, bas carbone qui sera rentré dans les normes.
En tout cas, ce que l'on peut retenir de cette émission, à vous écouter, et puis aussi en regardant le programme du CIPCA pour cette édition 2026, c'est surtout que le bas carbone est vraiment sorti du cercle des spécialistes. Donc, il est désormais au cœur des stratégies d'investissement, vous l'avez dit, de la construction, de l'aménagement, de la santé, de la qualité de vie, de l'attractivité de nos territoires. Donc, cette 5e édition met particulièrement l'accent sur la santé, je le rappelle, la résilience climatique, les nouveaux modèles économiques, l'économie circulaire, le hors-site et les talents de demain. Si on a envie d'en savoir plus, on se précipite sur le site internet cipca.fr, tout y est.
Il y a le pré-programme à date.
Ouais.
Encore plein de sujets qui arrivent là, qu'on doit mettre à jour, mais ça ne saurait tarder. En tout cas, d'ici, avant fin juillet, logiquement, vous aurez vraiment tous les éléments sur le site. Mais il y a encore tous les sommets, voilà, on réserve. Je vais pas dire le meilleur pour la fin, parce que tout est fantastique. Et n'oublions pas, la conférence commune que vous avez le 1er septembre après-midi. Mais voilà, il y a tous les sommets, le sommet des investisseurs, des territoires, parce qu'on vient de sélectionner là les 4 finalistes cet après-midi, en fait, de la première partie du sommet des territoires. Voilà, sur démonstrateur de la ville durable, accompagné par la Banque des Territoires et pour le compte du secrétariat général pour l'investissement et des ministères concernés. Donc voilà, il y a des votes en cours, il y a aussi l'Union des aménageurs, pardon, qui vient de procéder à ces votes, et finalistes qui recevront le prix. Donc il y a encore plein de choses qui arrivent sur le site, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a quoi, plus de 350?
C'est ça, je sais même plus. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit 350 intervenants, 200 exposants, 130 conférences et grands débats et 12 700 visiteurs attendus cette année.
Oui, c'est ça, mais l'échelle conférences et des événements, mais ils sont tous d'énorme qualité, d'une très très grande qualité, et vous pouvez le voir, on peut le constater sur ce plateau, voilà, nos partenaires. Alors je parlais du Sommet des Territoires, et d'ailleurs vous êtes, enfin CDC Habitat et le CSTB sont également dans les membres du jury, voilà, mais moi ce que je dis toujours, et c'est une vraie fierté, c'est un véritable honneur déjà pour moi et les équipes du CIPCA, c'est de voir à quel point nos partenaires, celles et ceux qui sont présents, nous réservent vraiment des sujets, voilà, que ce soit des appels à manifestation d'intérêt, que ce soit, vous l'avez dit très justement Sophie tout à l'heure, espace ferroviaire, faut pas que je les oublie, surtout pas que je les oublie, parce que ce sont les premiers à m'avoir parlé du sujet de la santé, et c'est vrai qu'ils ont mis en place un système très absolument génial, qui sont des déterminants en fait, et qui sont utilisables par toute typologie d'acteurs de l'immobilier, qu'on soit investisseur, promoteur ou autre, mais voilà, cette préoccupation, elle est la leur depuis longtemps. Mais voilà, enfin vous le voyez, tout le monde s'implique en fait. Nos partenaires s'impliquent énormément, nos exposants aussi. Je pense qu'il n'y en a pas un qui n'a pas une conférence qui vient pas raconter son histoire ou ses ambitions. Et voilà, c'est un peu la magie du CIPCA.
Et on va retrouver, je vais pas les citer parce qu'il y en a beaucoup trop, mais tous les grands professionnels. Architectes, les promoteurs, tout le monde est là.
Alors parlons-en des architectes, parce que c'est un sujet, c'est un sujet important. On remet les architectes aussi au cœur de nos préoccupations cette année. Et moi je suis hyper heureuse parce qu'on accueille Eden Kahn-Lewis sur les grands débats cette année, mais aussi Vincent Caillebeau, dont on parle beaucoup en ce moment avec ses bâtiments, voilà, et notamment à Montpellier, qui est un peu contre le réchauffement climatique. Tour, mais Vincent Caillebeau, il a accepté notre invitation depuis plusieurs mois, et il sera présent sur de grands débats aussi, avec toute sa vision qu'on connaît et toute son expérience dans le monde de bâtiments végétalisés notamment.
On espère l'avoir sur le plateau radio. Voilà, on espère l'avoir sur le plateau Radio Immo, Radio Territoria, qui les deux bien sûr seront présentes sur le CIPCA cette année. Donc on proposera des rencontres avec justement tous les grands acteurs du bas carbone aujourd'hui et qui seront présents sur le CIPCA. Un grand merci, Ferrielle de Riche. Je rappelle que vous êtes directrice du CIPCA. Merci d'avoir participé à cette émission. Stéphane Roy, directeur de la construction chez CDC Habitat, et Sophie Moreau, je me relance, directrice du domaine d'action stratégique bâtiment et quartier pour bien vivre ensemble au CSTB, le Centre scientifique et technique du bâtiment. Un grand merci à tous les trois, et rendez-vous donc du 1er au 3 septembre avec Radio Immo, avec Radio Territoria, au CIPCA, 5e édition cette année. Ce sera au Grand Palais à Paris. Merci beaucoup.
Le CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone sur Radio Immo et Radio Territoria.